Nous sommes donc le dernier samedi et au seuil de cette troisième étape de ce parcours, de cette retraite. Et pour moi, c'est la principale. Et alors, je m'inspire de cette grande loi qu'on a vérifiée tout au long de notre périple déjà, que plus on avance vers l'avenir, plus on éprouve le besoin de prendre son élan dans le passé le plus lointain, pour aller encore plus loin en avant. La Bible ne retient que ce qui est de l'avenir, du passé, que ce qui est de l'avenir. Et alors, plus on avance dans le temps, plus on éprouve le besoin d'interroger. Et vous avez remarqué dans l'Évangile, on remonte à coup de généalogie, pas Matthieu jusqu'à Abraham, Luc jusqu'à Adam et Dieu, et puis Saint Jean jusqu'au mystère même de Dieu, au commencement. Au commencement était le Verbe. Et alors, on prend, en allant au commencement, un élan qui nous mène jusque dans l'Apocalypse et dans le mystère de la Jérusalem d'en haut, cette ville au solide fondement dont Dieu est l'architecte et le fondateur, et en s'insérant dans cette immense procession de croyants, depuis l'origine du monde, prend la route dans la foi. Épître aux Hébreux. Bon, alors, on va faire une récapitulation. Vous vous rappelez qu'il y a trois parties. J'ai constaté la justesse de cette intuition des pères de l'Église que l'histoire sainte, ce qu'ils appellent l'économie dans leur langage, reflète la théologie, le mystère même de Dieu, de l'unité divine et du comment Dieu est un. Cette confidence qu'il nous fait de son mystère trinitaire à la plénitude des temps. Dans le sud, dans les éclairs et dans le tonnerre, au nom du Père, en Galilée ensuite au nom du Fils, et puis ensuite dans l'approfondissement autour de Jérusalem, à l'école de l'Esprit qui mène vers la vérité tout entière. Alors, refaisons un petit peu brièvement ces étapes. On a contemplé Jérusalem, et puis ensuite, on a pris la route, on a parlé du tombeau de Rachel, on est descendu vers la Chéphéla, la plaine côtière, on a enfilé la Via Maris là-bas, et on est arrivé le soir du premier jour à la frontière sud de Canaan, dans le Nahal Tsin. Bon, ensuite, alors, on a fait une route vers le commencement. Vers le commencement. Il s'agit de reprendre notre être dans ses virtualités originelles, rééduquer en nous l'émerveillement. Et on a été dans la montagne des Lattes, là-bas, pour écouter et se remettre à l'écoute du premier langage que Dieu parle dès l'origine du monde dans la nature. Vous vous rappelez, déjà là, il fait éclater nos idées par en haut et par en bas, dans les hauteurs des montagnes, les profondeurs de la mer. Alors ensuite, toujours dans la montagne des Lattes, là, on s'est payé le luxe de 2 jours de marche et on a médité au rythme de ces 2 jours de marche. Ces récits grandioses qui gravitent autour de la Sainte Montagne. Et puis alors, vous vous rappelez ce jeu de mots là, Sné, le buisson ardent, où Moïse fait personnellement l'expérience de la rencontre, hein, voir celui qui nous voit, c'est le thème qui est partout en filigrane dans cette expérience. Sinaï, collectivement, le peuple devant la montagne embrasée fait l'expérience de la rencontre, devient un peuple de rois et de prêtres. Et puis cette expérience de la rencontre est transportée à Jérusalem, Sion. Sné, Sinaï, Sion. Et on a assisté à la construction de la demeure qui est d'un seul tenant, qui reflète l'harmonie du mystère divin. Et puis on s'est mis en route là, étape par étape, et on a relu tous ces textes. On a le temps de revenir à cela. Ensuite, alors on a tourné la page et on a remonté. On a remonté la vallée de la Araba, ou plutôt, disons plutôt, on est descendu jusqu'au point le plus profond du globe. Après avoir pris les choses au commencement, on les a prises au plus profond. Et cette géographie parle d'une façon étonnante. Dieu nous invite à faire un détour pour être à sa trajectoire. Quand il passe, il faut le faire non pas seulement en surface, il faut le faire en profondeur. Tu aimes la vérité au fond du cœur. On a étudié cette théologie de la régénération par l'eau et par l'esprit, cette nécessité d'une nouvelle alliance qui n'est rien de moins qu'une nouvelle création. Et puis, du point le plus profond du globe, on a vu se lever l'étoile, rappelez, du messianisme, l'étoile de Balaam, qui devient l'étoile des rois mages. On a vu comment ce messianisme peut se fourvoyer dans des impasses, quelquefois glorieuses, mais pour nous anachroniques. On a suivi l'élan de cette étoile. On a, après avoir dépassé Masada, Bar Korba, fils de l'étoile, nous sommes arrivés chez les Esséniens, on a vu combien ils étaient plus près de l'évangile, mais encore si loin. On est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le plus grand parmi les fils de la femme, comme dit Jésus. Et pourtant, il ne se juge pas digne de délier les sandales de celui qu'il désigne comme accomplissant les Écritures. Vous connaissez tous le retable de Grunewald. Jean-Baptiste, les deux pieds solidement plantés en terre, qui a le livre dans la main gauche et qui, de son index, l'a hypertrophié, montre le Christ crucifié accomplissant les Écritures. Alors, à Jéricho, nous sommes passés de Moïse, qui meurt sur le mont Nebo, à Jésus-Christ, qui nous fait part de ses options messianiques dans ces 40 jours de retraite qu'il fait dans le désert de Juda. La tradition situe cela sur la montagne qui domine Jéricho, le mont de la quarantaine ou le mont de la tentation. Alors, on a fait l'expérience que si cette terre, il y a déjà une harmonie préétablie entre les textes et puis la géographie, dans le sud, cette harmonie préétablie est encore de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on progresse. Et alors, la pédagogie de Dieu, au fond, Jésus révèle au fur et à mesure qu'on est capable de porter. Alors, ces options messianiques que nous connaissons dès le début, il va les révéler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est seulement arrivé au nord du pays qu'il va les révéler à ses apôtres et qu'il va apprendre ce que c'est que la montée à Jérusalem. Et entre parenthèses, vous avez remarqué que partout où on a été, on rebondissait à Jérusalem. Le premier jour, déjà, Abraham, Jérusalem, c'est Melchisédek, roi de Salem, c'est le mont Moria. David, c'est Jérusalem. On a été au bout, et puis... Sinaï-Sion, on rebondit à Jérusalem. La rencontre est faite pour aboutir au lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et alors, dans l'évangile, c'est la même chose. Jésus nous emmène à l'extrémité nord du pays. On rencontre une autre montagne avec aussi Moïse et Élie, la montagne de la Transfiguration. Et là, Moïse et Élie parlent de l'exode, au plein sens du mot, qu'il doit accomplir à Jérusalem. On rebondit à Jérusalem.
Oui, c'est la confession de Pierre.
Vers l'est, on rencontre l'étoile qui nous ramène à Bethléem. On va vers l'ouest et puis on voit revenir l'Arche d'Alliance qui était partie chez les Philistins et puis qui donne sa signification à Jérusalem. Partout, on rebondit à Jérusalem. Alors, dans l'Évangile, on dirait que cette terre a été faite pour faire une catéchèse élémentaire aux dimensions du monde. Il y a toute une spiritualité du Jourdain. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire descendre. Et il y a l'histoire de Naaman, quelque chose d'intraduisible, va yéret va yarden. Il descendit dans le fleuve qui descend. Et Dieu qui a fait éclater nos idées par en haut, surtout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le fait éclater par en bas. Et il attend aussi que nous descendions dans le Jourdain. Et lui-même descend, l'agneau qui porte le péché du monde, comme pour ramasser toute la pesanteur humaine dans cette masse de pécheurs qui, par un baptême de pénitence, se prépare à recevoir celui qui accomplit les Écritures. Et Jean-Baptiste lui-même est complètement déconcerté. « Ah, si tu déchirais les cieux, disait Isaïe, et il voit les cieux se déchirer, et il n'en attendait pas tant. Et il voit celui dont il annonçait la venue se mêler aux pécheurs qui se préparent à cette venue par un baptême de pénitence. » C'est toute la spiritualité du Jourdain. Descendre dans le Jourdain. La rencontre. Alors, le lendemain, là, on a fait le tour du lac en se demandant la question, en se posant la question tout au cours de la journée, quel est cet homme qui... Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parle pas comme les scribes. Il parle avec puissance. J'ai entendu un professeur à l'université qui disait que ex exousia, t'as noté au passage, c'est mi piagevura. Dans l'équivalent. J'ai entendu ça dans la vision, la clé. Il y a des tas de choses qu'on apprend qu'à leur école pour comprendre l'évangile. Oui, et puis les gestes, on a observé le Christ dans son comportement, tout est parole dans ce verbe incarné. Et puis des gestes, vous pouvez dire, on est passé du geste au singulier, la multiplication des pains. Et en même temps, on a vu que l'opposition grandissait de plus en plus, le signe de Jonas. Et quand il passe sur l'autre rive, voyez, la géographie devient théologie petit à petit. Et le désert, le désert de la multiplication des pains, c'est pas un désert comme celui qu'on a rencontré au sud, c'est une signification avant tout théologique. Jésus apparaît comme le vrai Moïse qui, dans le désert, donne le pain. Et alors, cette multiplication des pains, on a vu l'importance de ce geste de la fraction du pain. C'est toute la condition humaine et royale sacerdotale qui est là ramassée. C'est un geste qu'on peut faire sans jamais le répéter. arrêté. Et alors ensuite, Jésus passe la frontière, vous rappelez, entre les états d'Hérode et les états de Philippe, et puis nous l'avons accompagné dans cette retraite. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est très curieux, il y a toute une montée vers l'Hermon, hein, et puis ça rebondit là vers Jérusalem. Alors, le Lévite exilé dit « Quand irai-je et serai-je vu la face de Dieu ?» Matayavov era epne Elohim. Dans le Cantique des Cantiques, on décrit les bien-aimés des pieds à la tête, et puis « Abaisse ton regard, viens de l'Hermon et fais ta rentrée. » On a expérimenté tout cet exemple dans l'Ancien Testament, tout ce mouvement. Mais dans le Nouveau Testament aussi, il y a toute une montée vers le nord. Jésus emmène ses disciples dans une sorte de retraite dans le pays de Césarée de Philippe, au pied de l'Hermon, aux sources du Jourdain, en terre païenne. On y adorait le dieu Pan, qui fait des paniques là. Le mot panique vient de là. On adorait le dieu Pan à la source du Jourdain. Et alors là, il y a un tournant. Jésus pose la question, qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? Qui dites-vous? À la question quel est cet homme, qui succède la question qui dites-vous que je suis? Et alors on a la confession de Pierre. Heureux es-tu, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais l'Esprit de mon Père. Et alors sur la confession de Pierre, Jésus fonde l'Église en terre païenne. C'est pas par hasard, c'est pas seulement sur l'autre rive, c'est en terre païenne. Et puis alors, à ce moment-là, Jésus ayant compris que ses apôtres ont deviné le mystère de sa personne, sur le Christ, le Fils du Dieu vivant, seulement à ce moment-là qu'il commence à les initier à ces options messianiques, à cette voie étroite qui par la croix le mènera à la résurrection. Et les apôtres sont complètement décontenancés, vous rappelez Saint-Pierre. Alors à ce moment-là, comme pour raffermir leur foi et leur donner un avant-goût de ce qui les attend au terme de cette aventure, Jésus se transfigure. Et c'est par là qu'il faut chercher la montagne de la transfiguration, qui reste aussi anonyme dans l'évangile, est-ce le Tabor, est-ce l'Hermon. C'est la montagne où rencontre Moïse et Élie. Moïse et Élie parlent de l'exode qu'il doit accomplir à Jérusalem. Et les apôtres alors suivent sans comprendre. Et jusqu'au seuil de la Pâque où s'accomplira les Écritures, ils ne comprendront pas. Et c'est seulement à la lumière de la résurrection que rétrospectivement, ils comprendront tout ce qu'ils auront vécu. Aussi, je rappelle quelque chose qui me semble très important. Enfin, il y a 6 jours entre la confession de Pierre et puis la transfiguration, comme il y a 6 jours dans la tradition juive entre le Yom Kippour, le grand prêtre prononce le nom derrière le voile dans le temple, et puis cette fête de Soukhot. Faisons 3 tentes. J'ai donné les références dans la brochure pour ceux qui voudront approfondir le sujet, mais là encore, la connaissance de la tradition juive amène énormément pour la connaissance des évangiles. Alors, on a parcouru le pays donc entre ces deux montagnes, où on rencontre Moïse et Élie. Et après ça, commence déjà la 3e étape, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment peut-on monter à Jérusalem en venant de l'Hermon, qui est à 3000 mètres, alors que Jérusalem est à 800 mètres. On ne peut monter à Jérusalem qu'en progressant dans le sens de l'approfondissement. Et c'est ce qu'on est appelé à faire dans une 3e partie. Alors on a parcouru la basse Galilée. Les horizons de la vie cachée. 30 années de vie cachée pour 3 ans de vie publique. Et cette disproportion formidable. Et alors on a fait les lieux saints, bien sûr, de Nazareth, mais on s'est surtout attaché aux horizons. En se promenant là, dans les horizons qui ont été pendant tant de temps ceux de Jésus, on a essayé de voir comment se sont formées ces options messianiques dans le contexte, dans son environnement. Et puis on a relu aussi tous les récits bibliques qu'il connaissait depuis son enfance et qui surgissent, surtout dans la plaine d'Esdrelon, qui est très riche de souvenirs bibliques de toutes sortes. Enfin, Jésus, c'était son horizon familier. On a vu comment, alors, son intelligence humaine, n'ayant pas triché avec la condition humaine, eh bien, se sont formées ces options messianiques, qu'il a révélées progressivement à ses apôtres. Et les horizons de la vie cachée, le cadre des options messianiques, la basse Galilée. Alors ensuite, ça a été la montée à Jérusalem. Et on a longuement médité à Megiddo. Si cette Terre Sainte est un carrefour, Megiddo c'est le carrefour du carrefour de cette Terre Sainte. Quand on visite le site, sur les pancartes, on parle de tout, sauf de ce sur quoi la Bible nous invite à concentrer l'intérêt, la mort absurde de Josias, qui est le plus saint de tous les rois de la Bible, et qui meurt meurt absurdement à Megiddo, mettant en question les théologies les plus établies d'après lesquelles le juste doit être récompensé et le méchant doit être puni. Voilà que le plus juste de tous les rois pose un énorme problème au carrefour de ce pays. Et c'est le point de départ d'une réflexion dont on a suivi les étapes. Bon, la mort du juste n'est pas absurde. La mort du juste a une signification. La mort du juste a une fécondité. Une fécondité qui aboutit à une conversion nationale. On transperce les faux prophètes et on se retourne vers celui qui a été transpercé. C'est vers là que monte tout l'évangile de Saint Jean. Et cette fécondité est symbolisée par un fleuve. Bah, ce fleuve dont parlent les prophètes, aussi bien Joël qu'Ézéchiel, qui va ressusciter la mer morte. Ce fleuve dont on a parlé. Et on a lu ces textes dans les paysages les plus évocateurs. Megiddo. Megiddo, on peut dire que c'est la croix au carrefour du carrefour. Et je crois qu'on ne peut pas mieux rejoindre le Christ dans la solitude incomprise de sa montée à Jérusalem qu'en méditant sur cette ligne de texte, le serviteur souffrant, et qui me semble prendre son origine dans la réflexion que provoque la mort absurde de Josias ici à Megiddo. Ensuite, on a été au Carmel. Le Carmel, la montagne de la retraite et du choix. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit là-dedans, c'est tout le problème de l'identité et de la culture qui est posé là. Le contact entre les Phéniciens qui habitent au nord, cette civilisation extrêmement riche, ces grands navigateurs de l'Antiquité, et puis l'amitié traditionnelle qu'il y a entre David, Salomon, et cette amitié à base de complémentarité qui se trouve entre les Hébreux et puis les Phéniciens. Hiram de Tyr, il y a tellement de cèdres dans le temple qu'on appelle la maison du Liban, la maison du cèdre. Et alors, c'est une amitié extrêmement riche, constructive, elle aboutit à la construction du temple de Dieu. Et puis en même temps, elle n'est pas sans danger, et la contamination idolatrique atteint un point critique au moment où Élie, sur le Carmel, convoque le peuple pour dire jusqu'à quand allez-vous clocher les deux côtés. Et on dirait que la petite route qu'on a faite là au sommet du Carmel cloche les deux côtés pour qu'on puisse expérimenter ça. C'est pas comme le pays parle. Et en même temps, c'est au nord du Carmel que Saint Paul, l'apôtre des nations, ira s'embarquer pour aller répondre à l'espérance des îles lointaines, accomplissant les prophéties d'Isaïe. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour regrouper mon peuple Israël. Tu seras la lumière sous les extrémités du monde. C'est du port d'Antioche, c'est le site Pierry, que s'embarque Saint Paul. Il y a toute une lignée là, d'identité et la culture, nous sommes tous aux prises avec ce problème. Il faut être accueillant vis-à-vis de tout ce qui nous est proposé dans tous les domaines, et en même temps il faut veiller à avoir une personnalité capable d'intégration. Et toute la Bible, c'est ça. C'est un peuple qui petit à petit atteint l'état adulte et devient capable d'intégration. Et au terme de la plénitude des temps, tout est à vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et un chrétien ne doit manifester aucune pusillanimité. Il a une puissante intégration à condition qu'il soit chrétien. Alors là, il faut se prendre tel qu'on est, là où on en est. Toujours, nous sont proposés des itinéraires. Et c'est comme ça qu'un groupe garde peut rester ensemble, parce qu'on ne propose pas un système tout fait. On propose un itinéraire et chacun se situe en faisant les détours en surface et en profondeur dans le secret de son cœur. Et on chemine ensemble, chacun est interpellé par son nom propre, donc il a dans le cœur de Dieu. C'est ça qui fait l'unité d'un groupe. C'est pas possible de le faire autrement. Alors ensuite, on a la Samarie est difficile à traverser comme au temps de Jésus. Moi, je voudrais que la BST, on fasse comme Jésus, qu'on aille les mains nues et qu'on ait des amis partout, et, tout en ne se faisant pas d'illusions, en sachant que tout le monde nous tombera dessus un jour. On est pour, on est contre, il faudrait respirer au-dessus de tout ça. Comment le faire? Comment avoir cette personnalité? Vous avez lu L'ombre du Galiléen, là. C'est un livre, le passage de Gert Thyssen qui est traduit maintenant. La personnalité de Jésus, qui a des amis partout, le Samaritain, le Centurion, les Zélotes. Et puis tout le monde lui est tombé dessus. Mais alors il a gardé le cap sur ses options messianiques. Alors nous avons rejoint à Césarée, là, Saint Paul. Et vous sentez qu'au fur et à mesure qu'on progresse, la géographie devient théologie. Il y a une mystérieuse promotion du concret à l'universel. La densité de signification fait éclater les frontières du temps et de l'espace. Et à Césarée, alors on a rejoint Pierre et Paul. Et on est monté à Jérusalem avec le parfait disciple au retour de ses grands voyages missionnaires. À Césarée, Paul le parfait disciple, qui n'a l'essence qui est derrière moi et me projetant de tout mon être vers ce qui est en avant, je désire participer à sa mort pour participer à sa résurrection. Et on a relu ce livre qu'un chrétien est inexcusable de ne pas avoir lu. Alors, les Actes des Apôtres, c'est un des plus faciles de tous les livres et c'est l'épopée de nos origines chrétiennes. Et maintenant qu'on cherche à retrouver le souffle de l'esprit, que ce souffle aille se prendre directement dans les Actes des Apôtres. Alors on est monté à Jérusalem pour des raisons pratiques et puis de Jérusalem, alors la situation étant assez complexe maintenant, on a récupéré ce qu'on a pu au nord et au sud et à l'est et à l'ouest. Autrefois il y avait un itinéraire à la recherche du culte en esprit en vérité par la route des sanctuaires, et alors en prenant le point de départ dans l'expérience charismatique telle qu'on la trouve là au nord de Jérusalem entre Rama et puis Geba, ensuite on montait à Bethel et puis on faisait connaissance avec Jacob, et puis ensuite on allait à Silo, puis à Bethel on entendait Amos contester la religion, donc la foi, c'est idiot d'opposer la foi et la religion. Voilà, la religion offre un milieu à la fois ambigu, l'idolâtrie c'est de la religion, mais la foi purifiant la religion amène au culte en esprit en vérité, encore toute une filière à suivre là. Alors à Silo, on a assisté à une des grandes crises de l'histoire sainte, on a assisté à la prise de l'arche d'alliance par les Philistins, et puis on arrivait à Sichem, on lisait l'entretien de Jésus avec la Samaritaine au pied du Garizim, le père cherche des adorateurs en esprit en vérité. Et ensuite on utilisait une route stratégique qui a été faite en bordure du désert, et là encore il y a un lieu saint trop peu connu, c'est Ephrem Taïbé, où Jésus est en retraite entre la résurrection de Lazare et sa passion. Et alors là on dirait que cette petite route stratégique est une route merveilleuse pour les retraites de ceux qui cherchent un peu de silence et qui veulent terminer cette journée à la recherche du culte en esprit en vérité en n'écoutant plus que Jésus lui seul parler de la prière. Alors, il y a toute une série de textes qui s'inscrivent dans le paysage là, sur la route qui monte de Jéricho à Jérusalem, le bon samaritain, Marthe et Marie, et puis apprends-nous à prier, le Notre Père sur le mont des Oliviers, où il y a une église avec le Notre Père dans toutes les langues du monde. Alors ensuite, alors, il y avait une journée extrêmement importante, c'est la relecture du prologue de Matthieu à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament dans les horizons de Bethléem. Alors là, c'est une journée à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Jamais on dira que l'Ancien et le Nouveau Testament, on dira assez que l'Ancien et le Nouveau Testament sont inséparables. Et Matthieu, ce bon scribe, on a vu comment, puisant dans son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles, compose cette merveilleuse généalogie du Nazoréen. Et puis on a vu comment Nazoréen, pour accomplir les Écritures, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion au langage du serviteur Etzorra, qui revient à plusieurs reprises, celui que Dieu a formé, si on prend la racine Yatsar, ou bien celui que Dieu a gardé, Natsar, parce que le nous, dans une consonne fluente, pas-t-on, Etzorra, et ça, le Père Benoît, Paul dit ça dans sa synopse, moi ça me paraît une évidence. C'est celui que Dieu a formé, c'est celui que Dieu a gardé, pour que, envers et contre tout, s'accomplissent les Écritures. Alors la généalogie de Matthieu ramasse toute l'humanité jusque au point le plus profond du globe, et puis l'amène à la crèche de celui qui est venu pour le salut, non pas des justes, mais des pécheurs.